Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les tripeux de sport, les geeks, les animaux à la recherche de motivation. Je sais pas exactement comment appeler les auditeurs du Upika podcast, mais merci d'être là, merci d'être avec moi. Cette semaine sur le podcast Upika, on reçoit Sandrine Mainville. Sandrine, c'est une nageuse olympienne, médaillée olympique en fait. On a nagé longtemps, en fait on a le même âge, fait qu'on a nagé dans les mêmes années. On s'est côtoyé énormément sur le bord des bassins. Évidemment, Sandrine a une carrière beaucoup plus décorée que la mienne, mais ceci étant dit, on était quand même dans le même profil d'athlète, donc des 50-100 mètres, puis je voulais recevoir Sandrine parce que je voulais parler du sprint, parce que le sprint en natation nécessite quand même beaucoup d'entraînement. Ça rentre dans la catégorie des sports d'endurance, même si l'épreuve en tant que telle est vraiment courte, 22 à 23 secondes, mais, ou mettons 22 à 54 secondes. Mais ce qui va derrière cette performance-là, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement. La natation, c'est un sport qui est extrêmement exigeant, même si on fait des courtes épreuves, même certains diraient d'autant plus si on fait des courtes épreuves. En tout cas, moi, je veux dire ça. On a parlé de son parcours, on a parlé évidemment de différents types de programmes d'entraînement, on a parlé de l'importance d'avoir des objectifs puis d'avoir une clarté dans un plan. Un plan, guys, là, un plan, avoir un plan en entraînement, c'est capital. Mais non seulement d'avoir un plan, mais de comprendre le plan. Si vous avez un coach privé pour whatever, que ce soit pour la course à pied, comme moi j'ai, que ce soit pour la natation, que ce soit pour le gym, même si vous faites de l'entraînement à résistance au gym, demandez à votre coach, OK, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce mouvement-là? Pourquoi je fais cet entraînement-là? Allez chercher les réponses à cette question-là, parce que si tu sais pourquoi, comme vous allez entendre dans le podcast aujourd'hui, si tu comprends le pourquoi de tes trainings, le pourquoi de ton plan, il est beaucoup plus facile de suivre son plan et de rester motivé à travers celui-ci. Life advice de ma vie, de mon parcours d'athlète. Anyways, le podcast est présenté par Upika. Upika, compagnie de suppléments pour les sports d'endurance. Vous allez entendre Sandrine qui maintenant fait de la course en sentier, un peu comme moi. Elle va faire le 65 km où elle l'a fait tout dépendant quand ça sort. Mais elle utilise le Upika Endurance, qui est notre formule tout en un pour les sports d'endurance. 25 g de glucides, 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, des électrolytes pour remplir ce qu'on perd à sueur, taurine, création d'énergie et thermorégulation, vitamine B et C, on réduit le stress oxydatif sur les muscles lors d'efforts de longue durée, des glucides qui se digèrent super rapidement, qui ne tombent pas sur le cœur. C'est un tout en un, c'est vraiment le produit ultime pour votre sport d'endurance. Fait que allez vous procurer ça au upika.ca, utilisez le code UPIKAPOD10, UPIKAPOD10 pour 10% de rabais sur votre premier achat. Aussi, si vous m'écoutez en ce moment, vous aimez le contenu qu'on crée, que je crée ici, qu'on crée au studio, whatever. Vous aimez le podcast Upika, laissez un rating sur les applications balado, laissez un commentaire sur Apple Podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify. Ça fait toute la différence du monde, je vous le dis. Si vous aimez ça, pensez à ça, dites-vous ça de même, OK? Vous écoutez ça, c'est du contenu, somme toute gratuit, une heure de contenu ultra pertinent pour vous. Vous l'écoutez, vous aimez ça. Vous vous dites, j'aime ce podcast-là. Quand les épisodes sortent, je les écoute. Ben, encouragez le projet, guys. C'est ça. Hein? Puis là, je dis ça pour le podcast Upika, mais faites-le pour tout le contenu que vous écoutez. Si vous prenez la peine d'écouter quelque chose, surtout des podcasts, c'est long, vous êtes engagé, ça prend du temps. Laissez un rating. Encouragez les podcasts, encouragez ce podcast-ci, puis sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation avec Sandrine Mainville. Yes, fait que, ben, check, on va continuer direct la conversation qu'on avait. Dans le fond, pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, on parle, parce que tu fais le 65 km à Ricana,
ouais.
Le week-end prochain, dans le fond, au moment où est-ce qu'on se parle. Là, je sais pas à quel point ça va être outdated, là, quand ça va sortir le podcast, là, je sais pas. Peut-être que je pourrais le sortir la semaine prochaine, dans le fond. Mais fait que le week-end, moi, je fais le 125 ce week-end-là. Puis, t'étais en train de dire que t'avais testé des trucs de nutrition pendant ton entraînement dernièrement. Tu penches vers quoi, mettons, comme stratégie de nutrition? Là? Ben, parce que c'est-tu la première fois que tu fais un long effort?
Oui, comme en ça, fait. Puis là, il y a des gens qui vont me juger, mais j'ai jamais fait plus que 30 kilos okay, avant.
Ouais, ouais.
Fait que ça a vraiment...
Il y en a qui vont juger. Je pense aussi qu'il y en a qui vont trouver ça très impressionnant. Là, chacun son niveau.
Oui. Ben non, mais je me suis donné que ça comme défi, puis il va arriver ce qui va arriver. Mais ouais.
C'est quand tu t'inscris?
Je me suis inscrite en janvier.
Okay,
dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai des amis qui sont allés en septembre passé,
ouais.
Même qui n'ont pas participé à la course, mais qui étaient juste là pendant le week-end puis qui m'ont dit que c'était vraiment une expérience folle.
Mm-hmm.
Puis moi, j'ai vu des photos, j'ai vu des gens que je connaissais qui ont participé puis qui ont posté des trucs sur Instagram et tout. Puis moi, j'ai vraiment la FOMO des fois dans l'envie. Puis ça, particulièrement à cause que c'est en lien avec le sport.
Ouais.
Puis je me suis dit, OK, l'année prochaine, je m'inscris. Puis là, j'étais arrivée, finalement, ça a pris du temps. En janvier, je regarde. Puis là, il restait juste le 10 kilos puis le 65.
Mm-hmm.
Fait que là, je me suis dit, ah, est-ce que 65, c'est trop? Mais en même temps, 10 kilos, c'est pas assez, tu sais, pour me donner un vrai défi. J'ai écrit un petit peu à Marianne Hogan,
ouais.
Parce que je la connais, c'est la meilleure amie d'une de mes amies.
Okay.
Puis elle m'a dit, tu sais, oui, t'es capable de le faire, mais il va falloir que tu fasses X, Y, Z. Puis j'ai dit, OK, let's go. Fait que je me suis inscrite, clic, puis
ouais.
Mais voilà, aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner, mais
ouais.
Je pense que ça... Ouais.
On va revenir sur comme ta préparation, puis tu sais, les différences entre une carrière de sprinteuse en natation puis de coureuse de longue distance comme ça, mais je veux juste qu'on finisse sur la nutrition que
ouais.
T'essayes pendant... Les trainings, maintenant, tu fais quoi, là, en
ben,
ce moment?
C'est ça, je suis partie de loin parce qu'avant de commencer à penser à faire une course d'endurance, moi, des fois, je courais, tu sais, des 10, des 15.
Ouais.
Puis des fois, je partais sans vraiment savoir jusqu'où j'allais aller avec rien du tout.
Au feeling.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais
sans eau, sans
mm-hmm. bord tombe. Puis à un moment donné, j'arrivais à 18, puis comme ça, j'ai faim, mais j'aimais ça me rendre à 21. Puis là, je finissais mon 21, puis j'étais... exténuée, tu sais, j'avais mal, j'avais
c'était pété pour le reste de la journée aussi,
ouais,
c'est sûr.
Ouais, 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 puis ça avait un impact même pour des jours et des jours, là, fait que je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose que je fais de pas correct.
Ouais.
Les abreuvoirs de Montréal ne sont
ouais.
pas assez. Donc, là, c'est sûr que la première grosse course que j'ai faite, en fait, c'est avec Marianne. Je pense que c'était en mai, on a fait un 30 ensemble, puis j'arrive pour partir pour le 30, puis encore une fois, j'avais rien. Puis là, Marianne a dit,
qu'est-ce que tu fais?
Tu m'instues? Quoi? Qu'est-ce que je
suis? C'était-tu sur route, mettons? C'était-tu un 30 sur route ou c'était genre vous allez
c'était
un peu dans...
C'était un petit peu de tout. Là. Il y avait okay. comme la forêt, on faisait le tour d'un lac okay. puis on revenait comme... En tout cas, c'était un petit peu de tout.
Ouais. Mais c'était un long 30 quand même.
Ouais, c'est ça. Il y avait comme pas trop de dénivelé, mais
ouais.
un peu, puis il fallait que je la suive
ouais,
aussi.
Ouais,
fait
ouais,
que...
c'est ça.
Puis là, c'est ça, fait qu'elle me donne une veste, elle me donne un petit peu de bouffe, un petit peu d'eau. Puis c'est là que j'ai vraiment senti aussi en faisant un 30 pour la première fois l'importance de se nourrir et de s'hydrater constamment
mm-hmm.
pendant un long effort comme ça. Parce que surtout, j'ai réalisé aussi avec l'expérience, le peu d'expérience
ouais,
que j'ai
ouais.
eu cet été, que même si tu penses que t'as pas soif ou que t'as pas faim, il faut que tu le fasses quand même assez rapidement au début de ta course parce que ça va avoir un impact plus loin dans ta
mm-hmm.
course. Donc, ça a été mon première expérience où est-ce que j'ai justement réalisé l'importance de la nutrition et de l'hydratation.
Je peux pas relate plus que ça avec toi, puis je trouve ça tellement, on dirait, déconnecté. Tu sais, t'es une athlète olympique, là. OK? T'es pas, genre, t'as pas nagé P2, là, à des compétitions, là. Tu sais, t'es allé au fucking, genre, élite, là. Élite, là. Mondiale élite, là. Puis c'est après ta carrière de sport élite où est-ce que tu réalises l'importance de la nutrition pendant l'effort, pendant les entraînements,
mm-hmm.
mettons. Parce que moi ça, là, c'est une des raisons pour que j'ai lancé Upika dans the line, puis je réfléchissais, puis je me disais, tu sais, une fois que j'ai commencé à faire du trail running, puis de la course un petit peu plus longue, puis là, que à chaque fois que je sortais pour plus qu'une heure et quart, je prenais de quoi manger, tu sais. Je prenais de quoi dans mes gourdes, ouais. Puis j'avais tout le temps une boisson qui était pas juste de l'eau, tu sais, du sodium, de la forme même. Chaque fois, je sortais pour plus qu'une heure et quart. Puis là, je repensais à mes camps d'entraînement où est-ce que plein soleil, pendant deux semaines, tu t'entraînes 4 heures minimum par jour, puis j'étais sur l'eau.
Ah oh, ouais,
genre,
moi.
Puis comme, j'étais sur l'eau, puis ceux qui étaient comme les plus expérimentés, là, ou genre ceux qui étaient les plus en avance, c'était genre sur Gatorade, that's it.
Ouais.
Puis ça me faisait capoter.
Ben moi, ça, justement, j'ai jamais été capable de juste être sur l'eau. Puis même mon coach, à un moment donné, essaie de me couper le Gatorade en disant comme faut que tu mettes le moins de Gatorade possible parce que c'est trop de sucre. Un peu la mentalité de en tout cas, old school, ouais. Que tu veux pas...
Mais genre, trop de sucre fait que à cause de perte de poids, genre?
Genre.
Ah, OK, ouais, ça ouais. C'est une scène, là.
Fait que, tu sais, j'arrivais... Puis j'essaie quand même de faire un mix, là, parce que j'avoue que d'être juste sur du Gatorade, des fois, c'est un petit peu intense, ouais. Là. Fait que...
Mais t'avais cette conscience-là quand ouais. Même quand tu nageais.
Oui, mais on dirait que c'est peut-être aussi la perception, tu sais, comme quand tu vois des gens généralement courir dehors, tu les vois pas avec leur bouteille d'eau, comme mm-hmm. Là, on en voit de plus en plus ouais. Parce que le trail running devient de plus en plus populaire, puis là, les gens ont compris l'importance de, bon, s'hydrater, s'alimenter ouais. Pendant la course, puis là, tout le monde achète des vestes, puis là, t'en vois de plus en plus, mais tu sais, ça, j'en voyais pas il y a 1 an, 2 ans, fait que moi, je me fiais à juste le savoir que j'avais de la course, puis moi, de mon passé, quand j'allais courir, tu sais, tout ce que j'avais, c'était des shorts, un t-shirt, des souliers. Fait que, ouais, mais justement, ça allait changer éventuellement ouais. Parce que la perception, tu sais, comment je m'entraînais en course, c'est évidemment plus la même qu'avant.
Ouais. Fait que là, pour clore ce dossier-là, qu'est-ce que tu veux faire pour l'UTHC? C'est quoi ton plan de nutrition, mettons? T'en as-tu un clair ou semi-clair ou pas clair du tout?
Ben, en fait, c'est juste que je vais continuer de faire ce que j'ai fait, tu sais, cet été. En fait, j'ai beaucoup utilisé le Upica été, puis je trouve que ça m'a aidé beaucoup. Je trouve, de la façon que tu le décris dans tes intros, je trouve que c'est vraiment vrai, là, puis c'est vraiment pas pour te faire plaisir ou te flatter dans le sens folle que je dis ça. Moi, je trouve vraiment que tu l'absorbes bien, puis comme, tu sais, t'as l'impression que tu bois juste parce que t'as soif, mais aussi, tu sais, tu t'alimentes en mm-hmm. Même temps, fait que ça a un effet, tu sais, j'ai moins besoin de juste manger des bars qui ouais. Pourraient être un petit peu comme tough sur l'estomac si ouais. Tu alimentais juste avec ça. Fait que j'essaie de mixer, tu sais, eau, piqueur, mm-hmm. Bars, les gaufres de nacre, ouais. Fait que... Puis, tu sais, je vais aussi, genre, étudier le plan pour voir, ben je l'ai déjà fait un peu, ravito, mais mettons? Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans le ravito. Ouais. Fait que ça, c'est cool parce que, chose que j'avais jamais
fait. Tu le vois d'avance,
ouais. Tu sais, comme d'avoir une stratégie de course, justement, tu sais d'avance qu'est-ce qui va arriver, mm-hmm. Quand, quoi, comment. C'est ça, chose que j'ai jamais vraiment faite dans ma carrière de natation parce que moi, mes courses étaient des 24 et des 54 secondes. Fait ouais. Que j'avais pas ça à penser, mettons.
Ouais. Ben, check, parlons justement de... Parce que là, t'es la première personne que je reçois ici qui a eu une carrière de sprint. Tu sais, la natation, c'est un sport d'endurance, oui, mais c'est... Il y a plusieurs aspects à natation. Mm-hmm. Puis mettons, Xavier Desharnais, puis toi, vous étiez loin sur le spectre de la natation, mettons.
Ouais.
Fait que, peux-tu, pour ceux qui nous écoutent, expliquer... Pourquoi est-ce que la natation, au contraire, mettons, du sprint comme le 100 mètres course à pied, mm-hmm. Pourquoi est-ce que les nageurs de sprint doivent quand même accumuler autant de millage? Puis est-ce que tu penses que c'est encore une bonne idée? Parce que, en tout cas, moi j'ai toujours trouvé que je faisais trop de millage pour mes distances, mm-hmm. Mettons, là. Surtout à la fin de ma carrière, là, j'ai toujours trouvé ça un peu cave de me claquer des 5000 mètres en long course quand je faisais... un 50 mètres, là, mm-hmm. Tu sais, 50-100 mètres, mettons. Là, c'est quoi ta vision de tout ça?
Ben, tu sais, je te réponds, mais j'ai aucune étude de kinésie.
Non, mais
je
écoute,
rien,
mais
je veux juste
baser
sur...
Je pense que c'est l'expérience personnelle, ouais. Ou ton expérience personnelle vaut quand même cher, là.
Ouais, t'sais. Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu commences, étant jeune, tu fais... Bon, si je compare l'entraînement que je faisais à 12 ans versus ouais. À 24 ans, c'est pas du tout la même ouais. Chose. Parce que plus t'es jeune, plus tu développes, puis c'est là où est-ce que j'ai développé le plus ma base d'endurance. Ouais. Je faisais des entraînements de 7-8 000 mètres, 10 000 mètres. On faisait des semaines qu'on appelait Top Gun où est-ce qu'il fallait que t'enchaînes le plus de kilomètres possible. C'était comme un concours de qui allait faire le plus de kilos sans vraiment penser à est-ce que tu nages bien. Ouais. On veut juste que t'enchaînes les kilos.
Puis ça, t'avais quel âge, mettons, quand vous faisiez les semaines Top Gun?
Entre 13 et 16 ans, peut-être.
Fait que genre secondaire. Là.
Ouais, au secondaire.
Puis combien de kilomètres tu faisais dans ta semaine Top Gun?
On essayait le plus.
Puis il n'y avait pas d'entraînement, c'était juste
oui,
quand...
Oui, oui, fait qu'il y avait des entraînements, mais tu sais, comme tu pouvais aller... Fait qu'il y avait 10 entraînements par semaine.
Tu pouvais toutes les faire.
Ouais, ben il okay. fallait que tu les fasses tous, okay. mais tu pouvais en faire plus. Fait qu'il y allait genre le dimanche matin, continuer après les entraînements, venir avant les entraînements. Fait qu'il y avait comme la
juste
base qui
nager.
Était là. Juste nager. Puis il y en a qui se rendaient jusqu'à 100 kilos.
Ouais.
On s'entend que 100 kilos, tu sais, à 14 avec l'école, c'est quand
débile,
même beaucoup, là.
Ouais.
là. Fait que, ouais. Ouais. Ça, puis je me posais beaucoup de questions à l'époque parce que j'étais comme, ça sert à quoi? Tu sais, effectivement, moi, à ce moment-là, je faisais peut-être entre 50-200 mètres. Fait que j'étais comme, à quoi ça
puis
sert?
Puis tu posais la question déjà à ce moment-là, au secondaire?
Ouais, je me révoltais un peu parce que moi, j'ai beaucoup posé de questions puis je voulais toujours savoir le pourquoi du comment. Tu sais, ouais. pourquoi je fais ça? Parce qu'une fois que je comprends pourquoi je le sais, là, je vais mettre l'effort puis, tu sais, ça va comme... plus faire du sens à ma tête, puis, tu sais, je vais y aller à 100%. Alors que si je doute un petit peu de la tâche que tu me donnes, veux pas, ça va avoir un impact mm-hmm. sur l'exécution. Fait que, ouais, tu sais, moins quand j'étais plus jeune, mais plus je vieillissais, plus les coachs me donnaient des trucs, puis j'étais comme, OK, mais pourquoi on fait ça?
Ça, c'est ça, les coachs, surtout la vieille génération, ils devaient triper, là, que tu leur demandes pourquoi on fait ça.
Je sais pas, parce qu'il y en a qui étaient comme, tu vas faire ce que je te
dis. Non, mais
faire,
c'est ça, je te dis, là, tu sais,
ah,
je le disais avec du sarcasme, parce que moi, ça m'est arrivé, justement, exactement ça, plus tard, un petit peu après le secondaire, de faire comme, OK, là, j'aimerais juste ça, genre, j'aimerais juste ça, voir un plan d'année.
Ouais.
Genre, juste pas, je veux voir un plan d'année, mettons, semaine par semaine, explique-moi la semaine, elle sert à quoi dans le plan de l'année,
mm-hmm.
puis j'ai jamais eu de réponse. Puis j'étais genre, quand je relançais, j'étais comme un irritant de vouloir avoir ce plan-là. Mais en hindsight, quand j'y repense, comme c'est juste la crise de base,
ben
là.
Oui.
Parce que comme toi, quand on me mettait au tableau 3 fois 300 pull brass à la fin du training, puis que c'était jamais expliqué pourquoi fallait que je fasse ça, je l'avais dans le cul, là, le 3 fois 300 pull brass, là. Sauf que si on m'avait expliqué, ben là, c'est pour aller chercher, tu sais, un meilleur catch en avant, travailler, tu sais, l'acide lactique dans les muscles. Mettons, une raison, là, même, je doute de l'efficacité de faire 300, mm-hmm. 3 fois 300 pull brass à la fin d'une pratique, mettons. Mais si on me l'avait au moins expliqué, j'aurais pu le comprendre puis faire, OK, check, c'est pas... ça fait du sens, là. C'est mm-hmm. chiant, c'est plate, c'est poche.
Ouais.
Je suis poche à ça,
ben,
mais ça fait du sens.
C'est vrai que tu dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont justement, ils savent pas c'est quoi ce plan-là, puis ils savent
ouais.
pas vraiment quand ils font leur entraînement à quoi ça sert, puis c'est dommage. Mais ouais, c'est... Puis c'est pour ça que tu vois qu'il y a aussi, tu sais, il y a des entraîneurs, plus tu montes un peu dans, tu sais, les entraîneurs de l'équipe nationale et tout,
mm-hmm.
tu sais, quand je m'entraînais à Toronto hein, avec Ben Titley,
ouais.
qui était, ben... qui l'est plus maintenant, malheureusement, mais qui était l'entraîneur de, genre, Penny Oleksiak,
ouais.
etc. Lui avait le plan le plus clair que j'ai jamais vu de ma vie.
Ah ouais, hein?
Et c'était de façon macro, mais micro aussi,
ouais.
là, tu sais, comme... ça allait jusqu'en dans le micro-détail des entraînements, tu sais, tu savais exactement, tu sais, ce que tu faisais, c'était pourquoi, puis il te l'expliquait, puis aussi juste le planning, comme tu dis, de l'année, avec pourquoi on fait telle compétition, pourquoi on fait tel
mm-hmm.
entraînement, quand, pourquoi aussi long, tu sais, pourquoi on va là, tout faisait du sens, puis c'est pour ça que...
Puis est-ce que tout t'était expliqué au début de la saison?
Non, c'est comme, ben, pff, mon Dieu, je me souviens plus, là, mais peut-être un petit peu au début, tu sais.
Puis pendant,
ouais. Puis à un moment donné, c'est ce que tu comprends aussi, tu sais, sa façon de travailler. Fait que
mm-hmm.
c'est plus nécessairement qu'il y a besoin de tout expliquer, mais comme tu comprends juste sa façon de travailler. Puis là, une fois que ça arrive, tu dis comment, ben oui, ça, c'est à cause de X, Y, Z. Fait que, mais je comprends ton point, que,
ouais.
tu sais, c'est le fun d'avoir un overall picture. Surtout quand vient le temps d'entraînement, parce que tu commences là, mais tu veux te rendre là, puis je sais quoi qui se passe entre les deux. C'est
puis,
crucial.
Tu sais, mettons, juste l'exemple que tu viens de donner, là, moi, en tout cas, ça me fâche, mais ça me frustre de parler, mettons, de tout ça post-carrière, parce que je me dis, avoir su ce que je sais maintenant, ou mettons, me poser les questions comme je me les pose maintenant, j'aimerais ça refaire tout, mettons.
Mm-hmm.
Tu sais, j'aimerais ça recommencer au début puis refaire tout, tu sais. Mieux, genre.
Mm-hmm.
Pour voir c'est quoi le résultat final, tu sais. Peut-être que le résultat, au final, est la même chose, mettons, sur ma carrière, peut-être. Mais j'aimerais quand même ça, tu sais, faire l'exercice de le faire. Parce que, tu sais, juste juste de savoir pourquoi tu fais une compétition, tu sais. Mettons, je suis la Coupe du Québec, genre. Tu sais, les Coupes du Québec à PPO, là, où est-ce que, genre, t'arrives là à sortir d'un camp d'entraînement, tu vas être nul à chier. Tout le monde sait que tu vas être nul à chier. Tu fais des épreuves que tu fais jamais, tu sais. En tout cas, moi, c'était ça qui arrivait, là, genre. Puis, je savais pas pourquoi j'étais là, genre. J'ai jamais su pourquoi j'étais là. Ça me faisait chier de monter à Montréal, passer un week-end, venir me faire défoncer quand Michael Phelps est là, genre. Michael Phelps vient là, c'est un cirque, puis genre, tu t'es juste pété à tout ce que tu fais parce que t'es défoncé, tu sais. Puis genre, je savais même pas pourquoi j'étais là. J'étais juste, j'exécutais, tu sais. J'exécutais, puis ça me faisait chier, puis j'étais pas motivé parce que j'avais aucune idée pourquoi j'étais là, tu sais. Tandis que si tu m'expliques pourquoi on va à une compétition en sortant d'un camp d'entraînement, encore là, j'ai de la misère à l'expliquer, mais si, mettons, t'as un raisonnement, puis ça fait du sens dans le plan. Je trouve que c'est bon. Puis juste, mettons, si on sort de la natation, juste un plan global en entraînement, me semble que c'est la base, là, tu sais.
Ouais, ben, tu sais, on peut appliquer ça à n'importe quoi, là. Puis c'est pour ça que je pense que juste avoir un objectif aussi en général, c'est tellement important. Puis ça, ça s'applique à n'importe quoi dans la vie. Tu sais, moi, avant de m'inscrire, par exemple, à Air Canada, tu sais, comme moi, juste pour donner un peu de contexte, j'ai pris ma retraite de la natation en 2018. Puis je me suis pas inscrite à aucune autre course que, tu sais, comme organisé, que ça soit en natation, au triathlon, au vélo, whatever, depuis. Et je m'entraînais juste pour le plaisir de m'entraîner. Et dès en janvier que je me suis inscrite à Arcana, toute ma planification de l'entraînement, ma motivation a changé. Même si avant, j'en avais de la motivation, mais là, il y avait comme eu un déclic quand même parce que justement, quand c'était un petit peu plus tough de se lever le matin un peu plus tôt avant de travailler, quand je finissais une journée de travail puis ça me tentait pas nécessairement d'aller courir, tu sais, comme j'avais tout le temps cet objectif-là en tête qui me rappelait que non, non, faut que tu continues de suivre le plan. Donc oui, c'est une question d'avoir un plan, mais c'est quoi aussi le end line? Tu sais, pourquoi tu fais une chose? Puis ça, je l'applique dans tout ce que je fais. Puis des fois, j'en viens là, que je suis intense avec ça parce que je suis comme, c'est quoi mon but dans la vie? Ouais. Tu sais, comme, mais bref. Fait que pour l'entraînement...
Mais est-ce que tu remets en question, mettons, des affaires dans ta vie, que ce soit professionnel, pas juste le sport, là, mais est-ce que tu remets en question, mettons, OK, pourquoi je suis en train de faire ça, puis est-ce que tu le fais constamment?
Mais non, on s'égare un peu, mais oui.
Ouais, non, mais on s'égare, mais c'est intéressant quand même, parce que ce qu'on prend dans le sport, on le porte dans nos vies, là. Mais fait que ça te prend un objectif clair un genre de step-by-step de comment s'y rendre.
Ouais, vraiment. Puis c'est pour ça que comme quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à plus... j'ai commencé le vrai monde professionnel. Ouais. Au début, tu sais, j'ai commencé tout ça. Je me posais pas trop de questions jusqu'à ce qu'à un moment donné, je devienne confortable dans ce que je fais. Puis là, ça a juste comme décliqué que j'ai dit « OK, mais pourquoi, dans le fond, je fais ça? » Qu'est-ce qui a fait que je suis rendue là aujourd'hui? C'est quoi mon next step? Parce que en natation, on avait tellement de... stepping stone, tu sais, comme à chaque année, il y a une équipe nationale, à chaque mois, presque une compétition, tu as des camps d'entraînement qui arrivent, fait que you're always looking forward to something. Puis dans ma job, c'était comme, OK, mais c'est quoi mon prochain step? Puis c'était pas encore clairement défini. Puis j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, tu sais, puis là, c'est un petit peu plus clair, mais je pense aussi qu'il faut que je me donne le temps à ce que ça vienne parce que quand j'ai commencé à m'entraîner de façon, tu sais, compétitive à 11 ans, je savais pas déjà que mon objectif, c'était les Olympiques, tu sais, contrairement à beaucoup de personnes, il y en a qui commencent à 5 ans puis ils pensent aux Jeux. Mais moi, ça s'est plus développé à travers les années, fait que je pense que c'est aussi une question de se laisser du temps pour que ces objectifs-là se créent, puis pas trop les pousser, dans le fond, là, pour
Ouais, parce que, puis aussi des objectifs ambitieux comme ceux-là, tu sais, faire les Olympiques, c'est, si t'es un nageur, puis tu commences ta carrière en disant, tu commences à nager en disant, je veux aller aux Olympiques, les chances sont faibles que tu t'y rendes, là, tu sais, au final, si c'est ça le seul end goal, là, tu sais, je pense que d'avoir des stepping stones qui sont des genres de checkpoints, ici, là, ici, là, puis aussi d'ajuster les objectifs, tu sais.
Ouais.
Mettons, quand, tu sais, moi, rapidement, j'ai ajusté cet objectif-là dans ma carrière de natation, là, tu sais, de faire genre, ça sera pas pour moi. Tu sais, les Olympiques, genre, va falloir que je trouve autre chose. Je suis un bon nageur, va falloir que je trouve un autre objectif à accomplir parce que ça, clairement, j'ai pas ce qu'il faut pour me rendre là, tu sais. Fait que genre, mais ça a pas fait, étant donné que j'avais plein de petits steps avant, ça, j'ai été quand même accompli dans ce que j'ai fait.
Mais je pense que c'est une question aussi d'apprécier le processus.
Ouais,
là,
c'est ça,
de ne pas dire tu commences à 5 ans, tu veux aller aux Jeux olympiques, mais ça va peut-être arriver dans 20 ans.
Ouais.
Fait, encore une fois, ça revient au plan. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire entre là et 20 ans? Est-ce que ben à la base, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu as justement des objectifs un peu plus, plus à court terme, moyen terme, mm-hmm. que tu apprécies quand même, puis qui vont te fulfill? Ça, je pense que c'est super important. Fait que, tu sais, si on revient, par exemple, à Arcana,
ouais.
Moi, à chaque semaine, tu sais, j'avais un objectif. J'avais genre un mini-plan de comme combien de kilos j'allais faire, mm-hmm. C'est combien long ça va être ma longue course la fin de semaine. Pour pas tout le temps que tu dises comme, ah, oh, mais Arcana, c'est dans 9 mois, ouais. par exemple. Là, tu perds de vue un peu ça. Puis c'est un peu encore inatteignable. Puis là, c'est sûr qu'il est comme, on s'entend, là, 9 mois, c'est rien dans une carrière de 20 ans. Mais pour moi, tu sais, c'était quand même long. Puis encore une fois, je me ramenais à, tu sais, comme, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, genre, quelque chose de concret pour me permettre d'avancer dans la bonne ouais. direction. Puis de quand même apprécier le processus, tu sais.
Ouais. Ouais, à chaque step, c'est mm-hmm. ça. Je veux qu'on revienne, on ouais. a fait une longue, longue parenthèse, mais tu étais en train de parler de l'importance d'acquérir une base ouais. quand tu étais adolescent.
Ouais.
Fait que là, tu faisais les semaines Top Gun, mettons, là. Fait que tu sais, t'as quand même fait pas mal de kilométrages. Moi, c'est pas mal la même chose aussi, tu sais, à mon secondaire, c'est là que t'en fais beaucoup, là, tu sais. Puis à ce moment-là, tu faisais déjà du 50-200, là, tu sais.
Plus du... Ouais, du 50,
mais tu 200. Tu te rendais au 200.
Ouais, ouais. Je me rendais au 200. J'ai arrêté de faire des 200. J'avais peut-être 16 ans. Tu sais, quand on est allé au Jeux du Canada ouais. ensemble, j'avais 17 ans. Puis je me souviens que là, c'était plus question de faire
ouais.
les 200.
Ouais, moi, ça achevait aussi. Il en restait... C'est mon best time encore au 212, cette compétition-là.
Ah ouais? Au ouais. Jeux du Canada?
Ouais.
Wow.
Ouais. ouais. Mais c'était aussi la dernière fois que j'ai mis un maillot long.
C'est ça, j'allais dire. Puis c'était les maillots en polyuréthane.
Ouais, moi j'avais pas ça parce qu'on n'en avait pas eu, nous autres.
Ah, OK.
Ben, il y en avait eu 3 qui avaient été donnés aux joueurs de l'Université Laval. Puis ça avait été, genre, ça avait été Adam Zou, Geneviève Quentin, puis Éric Quentin, ouais, qui avait ouais. eu un maillot. Moi, j'en avais pas eu, fait que ah. je... Mais tu sais, écoute, il était rare à ce moment-là. C'était genre la chasse ouais. au J-Kid, là, je me rappelle, là, ou au X-Glide, là.
T'en avais un, ça te coûtait 600$ puis ça te pétait des
ouais.
mains des
fois. Ça éclatait,
ouais. Ouais, en tout cas. Mais donc, ouais, fait que j'ai arrêté de faire des 200, j'avais environ 16-17 ans.
Puis là, tu nageais où à ce moment-là?
À ce moment-là, j'étais encore au club de Boucherville.
Ouais, c'est ça.
Parce que moi, j'étais originaire de Boucherville. Ouais. C'est justement après les Jeux du Canada que là, la saison, après que je suis allée m'entraîner au Centre national à Montréal.
Ouais.
J'étais là pendant 5 ans, jusqu'à temps que j'aille à Toronto après.
Ouais. Puis, est-ce que, parce que c'est quand même un gros step, changer d'environnement, mm-hmm. d'entraînement, là, de coach, de groupe, d'endroit aussi.
Mm-hmm.
Comment tu l'as vécu les 2 fois, mettons? J'imagine que ça a été 2 expériences complètement différentes, ouais. de changer d'un...
Il y a quand même un point commun entre les deux qui est de sortir de ta zone de confort, ouais. qui ouais. fait que tu t'améliores là, à un autre niveau. À
ah,
chaque
ouais,
fois,
hein?
là, tu peux regarder, je pense, ma progression, là, puis là, bon, les écouteurs qui ne nous voient pas, là, ça monte de même. Après ça, ça stagne un peu, puis ça remonte une deuxième fois à chaque fois que j'ai fait un switch.
Mettons, si tu regardes là, ta carrière de façon macro avec tes temps, tes performances, puis mettons qu'on est capable de rater tes saisons, mettons.
Ouais.
Ça fait 3 paliers?
Trois paliers. Tu sais, comme je m'améliore un peu à Boucherville, après ça, comme je commence à stagner, pas stagner, mais tu sais, ça devient un peu plus constant. Après ça, je fais le move à Montréal. Et mes temps, ben, je pense qu'au 100 mètres, mon temps a baissé de 56 secondes à 54-8.
En genre...
En un an.
En un an, ouais, ouais, juste en changeant de programme. Là.
Ouais, ouais, ouais. Puis, mais je pense pas que c'est juste le changement de programme. Là. Je pense que c'est aussi, tu sais... le changement d'environnement, sortir de ta zone de confort, t'entraîner avec des personnes que t'étais pas habitué, qui te font découvrir des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, la nouvelle perspective d'un autre entraîneur qui va mm-hmm. peut-être te dire la même chose que ton entraîneur d'avant, mais d'une façon différente, qui va faire que ça va mieux cliquer. Tout ça ensemble fait en sorte que, tu sais, je pense que ça s'applique encore une fois dans la vie, ouais. tu sais, comme avec n'importe quoi, là. on peut vraiment accomplir des grandes choses quand on fait exprès de se sortir de notre petite zone de confort et qu'on est si habitué puis qu'il pense qu'il nous convient, mais que finalement, on se rend compte que, tu sais, genre, faut faire les choses différemment des fois pour atteindre un autre niveau. D'ailleurs, par rapport à ça, la raison pour laquelle j'ai changé de Montréal après ça à Toronto, en fait, moi, j'avais la chance de m'entraîner avec une grande sprinteuse, Victoria Poole, pendant toutes mes années à Montréal.
Ouais.
Puis je me disais, je me posais beaucoup de questions à savoir si je devais changer, tu sais, comme aller à Toronto parce que c'est un gros step. Et mon père qui me disait, ouais, mais comme, considère quand même que tu as la chance de t'entraîner avec une double olympienne qui t'apprend à tous les jours.
Mm-hmm.
Puis c'est genre super valuable. Puis un moment donné, Christopher Bezos m'avait dit, ouais, mais Sandrine, ce que tu réalises pas, c'est que tu la battras jamais si tu fais pas quelque chose de différent.
Ouais.
Puis ça a tellement résonné en moi. Je me suis dit, you know what, sacré I'm getting Chris. Out of here.
Sacré Chris. Qui drop du knowledge comme ça, là.
Ouais. Ah non, ça fait, mon Dieu, ça fait des années, mais comme...
Mais tu vas t'en rappeler toute ta vie, cette phrase-là.
Je vais m'en rappeler toute ma vie, puis, tu sais, je veux dire, je regrette tellement pas de l'avoir fait parce que c'est là que... C'est ça qui a fait que je me suis rendue où est-ce que je me suis rendue, mais pour répondre à ta question, donc, je me souviens plus c'était comment formuler, mais tout ça pour dire que comment ça s'est fait, mon switch de Boucherville à Montréal, Montréal à Toronto, c'est à chaque fois, j'étais arrivée à un point où est-ce que j'étais comme, OK, il faut que je fasse quelque chose de différent parce que, bon, X-Credit, je pense que j'ai fait ce que j'ai fait, mettons, à Boucherville à Montréal. C'est quoi le prochain niveau? Puis ça s'est fait comme ça, là, les deux fois.
Encore une fois, comme je leur disais tantôt, je ferais des affaires différemment. Puis ça, ce serait une affaire que je ferais différemment. Ouais. Ça, vraiment, amener, je me rappelle, quand j'étais rentré à l'université, j'hésitais vraiment à aller aux États-Unis. Comme vraiment aller chercher, genre, j'avais des scholarships que j'aurais pu aller chercher, là. Puis pour un full ride dans une université américaine, puis... J'y ai pensé là, longtemps, là, tu sais. Sauf que finalement, j'étais comme chez nous, à Québec, l'Université Laval, belle université, puis là, je suis resté là, tu sais. Puis là, en rentrant à l'université, j'ai eu genre vraiment une dose de motivation qui a descendu là, grandement, parce que c'est comme t'es encore dans le même air, le même peps de l'Université Laval, tu sais. C'est une super université, mais comme à amener. Changer d'air des fois.
Ben, tu sais, chacun a son propre parcours.
Ouais, ouais, non, je comprends, mais c'est intéressant quand même.
Tu sais, tout le monde, que ça aurait marché, moi, ça a marché, mais tu sais, tu peux faire aussi, justement, sortir de ta zone de confort, ça veut pas juste dire, tu sais, comme déménager
à un autre endroit. Ouais.
Fait que c'est juste plus un exemple.
Mais quand j'ai changé de coach, par exemple, à même le Rouge et Or, ça a changé complètement. Ouais, bon. C'est là que j'ai comme eu un deuxième souffle dans ma carrière. Mm-hmm. Mes trois dernières années, mettons, là, parce que là, j'ai commencé à faire du sprint, puis avec un autre coach, ça a changé toute ma perspective complètement.
Ouais.
Puis que là, mettons, là, tu fais ce millage-là à Boucherville quand t'es adolescente.
Mm-hmm.
Puis là, tu vas au Centre national à Montréal. Est-ce que vraiment le programme change? Ce que tu fais au day-to-day, là, est-ce que ça change vraiment ou non?
Je t'avouerais que pas tant, dans le sens que, tu sais, ça reste que, tu sais, tu fais des doubles, des simples, tu sais, le même nombre d'entraînements, pas
mais
mal.
Le contenu, est-tu semblable?
Le style d'entraînement change un peu, oui, là, faut se le dire, là, c'est moins, tu sais, parce que quand t'es plus jeune, je pense, c'est ça, tu fais un peu, je veux pas dire du n'importe quoi, là, mais comme, juste, on te garoche des affaires, puis c'est comme, c'est ça qui va shaper ton endurance, tant physique que mentale, je pense. Moi, ce que, puis j'enlève rien à mon coach de Boucherville, mais c'est ça que j'ai réalisé quand j'ai fait le switch entre les deux, c'est que je trouvais qu'il y avait un peu plus de, excuse-moi le terme anglais, mais de purpose. Quand j'étais arrivée à Montréal, comme encore une fois, tout faisait un petit peu plus de sens, puis c'était plus spécifique aussi à la course que je faisais. Tu sais, t'avais plus d'entraînements qui étaient séparés en fonction des styles de course de chacun. Ça veut pas dire entraînement spécifique veut dire que je fais juste des 50 mètres ou juste des 100 mètres. Parce que, tu sais, il y en a qui réalisent pas que dans un 100 mètres, qui est juste 54 secondes, t'as quand même beaucoup d'endurance là-dedans. Là. Tout ton deuxième, ta deuxième
moitié de course. T'es dans beaucoup de zones. Tu fais toutes les zones en même temps.
Là-dedans, t'as de la stratégie. Fait que c'est sûr qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait juste des 50. Ouais. Moi, j'en ai connu des nageurs et je suis pas mal certaine que Florent Manaudou a un programme d'entraînement qui est très différent du mien.
Ouais.
Mais sûr, dès que tu arrives à 100 mètres, qui est plus que, dans le fond, tu peux pas être à 100% pendant tout un 100 mètres. Il y avait un coach qui m'avait déjà dit, ça se rend jusqu'à pas mal comme 43-44 secondes, le maximum de temps que tu peux faire à 100%. Ouais. Fait qu'un 100 mètres étant, tu sais, moi dans mon cas, 53-54 secondes, là, il faut que tu continues à t'entraîner dans l'endurance, dans la stratégie, dans...
Il y a une seconde qui manque quelque part.
Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on garde des entraînements qui peuvent aller jusqu'à 8000 mètres, des sets qui peuvent être, tu sais...
Est-ce que des fois, mettons, il faisait un training que là, on prend tout le monde ensemble, puis ouais. On fait un 6005 général, mettons.
Ah, oh, ouais. Okay. C'est comme, tu sais, surtout pour débuter la semaine.
Ouais.
Des sets où est-ce que, tu sais, c'est juste du kick, des jambes... tout le monde ensemble. Puis aussi, généralement, on commence l'entraînement ensemble. Puis c'est juste pour les sets plus spécifiques vers la fin de l'entraînement qu'on sépare. Mm-hmm. Ouais.
OK. Puis tu t'intègres la muscu quand dans tout ça?
Fait que, mettons, si je prends le programme que j'avais à Toronto parce que c'est le plus récent, on avait trois...
Mais dans le sens, on reviendra sur ça, mais ouais. Dans ta carrière, c'est quand tu as commencé à faire de la muscu?
J'ai commencé quand même assez tôt, peut-être à 13-14.
Ah oh, ouais, hein?
Ouais.
Avec des poids, là?
Ouais.
Tabarnak!
Ouais.
OK.
Mais encore une fois, je pense que c'est pas nécessairement tout le monde là, qui devrait commencer à cet âge-là.
Ouais, allez voir votre médecin avant. Là.
Ouais. Et puis je dis ça, puis t'sais, peut-être que c'était pas aussi intense que t'sais, ça s'est fait de façon
progressive. Mais tu veux pas faire une rep max là, à 13 ans, mettons?
Non. Ouais. Fait que, puis encore une fois, c'était un petit peu broche à foin, je pense, qu'est-ce que je faisais à l'époque. Ouais. Là. T'sais, juste comme pour savoir, t'sais, comme commencer à t'habituer dans une salle de musculation. Ouais. Puis t'sais, comme faire. C'était plus des chin-ups ou des trucs genre. Ouais, c'est rien
body
de...
Weight, là,
ouais. Ouais, body weight. Mais je pense que, tu sais, moi, c'était bon parce que j'étais une sprinteuse, puis les sprinteurs, c'est vraiment plus, c'est musculaire. Faut que tu développes ta fibre musculaire. Puis moi, encore plus, je pense, parce que c'est vraiment ce qui me définissait, là, quand j'étais nageuse. C'est comme, j'étais bien musclée. Une chance que c'est plus comme ça aujourd'hui. Ouais. Mais encore une fois, tu sais, je pense que ça dépend de chaque personne en fonction de leur morphologie, là.
Ouais.
Ouais.
Puis, fait que, mettons, après ça, dans ton... Quand t'étais, là, peak programme, là, olympique, là, combien de muscu tu mettais dans ton programme?
Fait qu'il y avait trois musculations par semaine qui étaient des fois avant, des fois après l'entraînement en piscine. Il y avait trois qu'on appelle dry line,
ouais.
Comme tu sais, qui sont juste comme, tu sais, sur le bord de la piscine. Ça peut être avec des medicine balls, et encore une fois, tu sais, plus body weight, squat, ouais. Push-up, abdos, etc. Puis, une fois par semaine, à Toronto, on avait un mur d'escalade.
Ah ouais, hein?
Fait qu'on allait faire de l'escalade pendant comme une heure, puis après ça, on allait faire un set de poule, qui est juste les bras.
Oh.
Fait que, ouais, comme j'avais les bras là, qui shakaient à la fin de l'entraînement. Là, c'était, puis j'avais les avant-bras là, qui étaient immenses.
Ouais.
Mais.
Puis les premières fois que tu fais ça, tu devais te lever tellement raqué le lendemain.
Ah ouais.
Impossible de déplier les bras, là.
Ouais.
C'est malade, ça. Je t'avais déjà entendu dire, je me rappelle plus c'est quand tu m'avais dit ça, peut-être dans un pique-nique, dans un parc, là, je me rappelle plus, tu m'avais dit que vous faisiez pas de crawlizy à Toronto,
ouais.
Que vous faisiez tout votre relax au dos.
Pas tout, là, mais comme beaucoup, mais pas juste le relax, même aussi l'endurance, fait que mes sets préférés, moi, c'était justement des sets de qualité, puis quand je dis des sets de qualité, là, c'est vraiment plus parce que, justement, une semaine d'entraînement va être divisée en... C'est base, endurance, récupération, mais il y a certains entraînements pendant la semaine que là, c'est comme vraiment dédié à le plus possible, on veut se rapprocher de ta course en compétition, fait que ça va être plus rapide, plus spécifique, tu sais, comme on veut vraiment que ça soit le plus possible.
Mm-hmm.
Puis dans ces entraînements-là, par exemple, on commençait avec du dos, justement, qui n'est pas un style de nage que je fais, mais
ouais.
Aucunement
ouais.
En compétition. Mais juste...
Je me rappelle pas t'avoir vu faire du dos, mettons.
J'en faisais
vu nager
à 13 ans,
souvent, là.
Ouais, c'est ça. Mais j'aime ça, le dos, à l'entraînement, justement, parce que ça fait différent de, tu sais, ce que je suis habituée de faire.
Ouais.
Puis la raison derrière ça, c'était que le coach, je voulais pas que tu fasses tout l'entraînement d'endurance dans ton style de course, parce que des fois, en entraînement, quand, justement, t'enchaînes trop de millages, ton style de nage va perdre... la qualité, dans le fond. Fait que la natation, c'est un sport extrêmement technique. Puis dès que tu en accumules trop de fatigue, ça peut avoir un effet sur la façon que tu positionnes ton bras, parce que là, tu vas te dire, OK, je suis plus capable de placer mon bras comme ça alors que je devrais. Fait que là, je commence à relâcher à des endroits. Fait que ça fait que tu commences à entraîner ton style de nage d'une façon qui devrait pas être comme ça. C'est comme ça devient plus de la qualité parce que, bon... C'est ça, c'est l'effet de comme accumuler trop de minage. Fait que pour solutionner ça, on faisait toute l'endurance le plus possible dans un autre nage parce qu'on s'en fout de cette nage-là. Tu l'utilises pas en compétition. Mm-hmm. Fait qu'on commence entraînement, on build l'endurance, on build la fatigue dans le dos. Puis après ça, whoop, on switch au crawl pour un 50 mètres, un 100 mètres. Puis là, tu y vas à 100 000 à l'heure.
Ouais.
Puis je veux que ta technique de nage soit la plus clean possible, la plus parfaite possible, pour encore une fois reproduire le plus possible ta course en compétition.
Ouais.
Fait que c'était ça la mentalité derrière ça. Chose que j'avais jamais fait avant.
Ben, c'est du jamais vu en natation. Là.
Mais c'est tellement comme smart.
Si, ben, c'est incroyablement smart. C'est qu'on dirait que c'est vraiment, encore une fois, une espèce de pensée... Une pensée nouvelle dans un vieux sport. Là.
Ouais.
Tu sais, dans un sport de vieille. Moi, je me rappelle, on faisait. C'est une scène. Si je pointe par là parce que Doom, ça le concerne. Là. Lui, on faisait, quand on nageait ensemble, les matins, on nageait à Bérère, la piscine, Poulbras de Bérère. Puis on faisait, c'était en long course. Puis on faisait un 8 x 400 à chaque, comme, c'est quasiment à chaque semaine. Là. Je pense que ça commençait comme 4 x 400, puis ça devenait 8 x 400. Puis c'était genre, c'était sous-maximal, mais c'était pas best average, mais tu te mettais dans le rouge, là, tu sais. Puis le temps restait le même, mais à la fin, t'en faisais 8, mettons. Là. Puis c'était, fallait le faire dans notre style de nage, tu sais. Moi, au dos, c'est pas super, là, ça va, tu sais. Dos, 400 dos... Je trouvais pas que ça servait à grand chose, mais c'est quand même, tu sais, tu casses pas trop. Là. Mais Dom, lui, il faisait du fly. Puis il faisait ce set-là au fly. Puis je me rappelle, là, comme si c'était hier, on faisait ce set-là. Il finissait, là, les hanches au fond de l'eau, le kick, il est plus capable, puis sur le bord de se noyer à chaque 400. Puis il finissait, tu sais, il faisait le set. Puis pendant ce bloc d'entraînement-là, là, on était secondaire 4-5. Okay. Puis, à la fin de ce bloc d'entraînement-là, on a une compétition. Pas à la fin, mais pendant le bloc d'entraînement, on a une compétition à Bérère, justement. Puis Dom, là, je raconte l'anecdote. Mais Dom, il invite sa blonde pour venir le voir nager pour la première fois. Puis il fait le 200 fly. Puis il commence son 200 fly. Premier 100 mètres, ça va. Deuxième 100 mètres, il se met à nager exactement comme il a entraîné son fly pendant 2 mois avant. Mm-hmm. Les hanches au fond de l'eau, je me rappelle, je regardais sa blonde dans les estrades parce que j'étais assis à côté d'elle, puis elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Là. Son chien était en train de se noyer dans la piscine. Là. Puis la raison, c'est parce qu'elle avait entraîné ce style-là. Tu sais.
Ben, c'est vraiment un bon exemple, puis c'est justement ce que notre coach voulait pas qu'on fasse.
Ouais. Puis est-ce que, parce que la natation, c'est probablement, ben du moins, c'est un des sports les plus techniques, là, je pense. Là. Combien de temps vous allouiez à la technique quand t'étais à Toronto? Tu sais, genre straight up technique de genre on se filme, on se regarde, puis on travaille des points, là, tu sais.
Fait que 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi matin, on commençait par la musculation, puis après ça, c'était un entraînement qui durait pas plus qu'une heure et demie, où est-ce qu'on avait des stations, puis une de ces stations-là, c'était vidéo avec notre biomécanicien
qui nous filmait,
ça pouvait être soit des virages, soit des plongeons, fait que des dives là, au début de la course, ou ton site de nage. Mais ton site de nage aussi, il pouvait nous filmer des fois dans des entraînements que... C'était pas juste dédié à ça, puis tu sais, il nous faisait sortir de l'eau, puis il nous le montrait. Fait que, en plus de ces deux entraînements-là, qui étaient vraiment comme, tu sais, t'avais une station qui était toi, tout seul, avec le biomécanicien puis l'entraîneur, je te dirais que c'était quand même assez régulier pendant. Puis c'est fou parce que t'as tout le temps quelque chose à changer.
Ben, c'est mental, c'est débile mental.
C'est fou, hein, puis tu sais, des fois, t'as une perception de la chose parce que, tu sais... Encore une fois, la natation, c'est tellement technique. Tu sais, tu penses que tu fais quelque chose d'une façon parce que tu es tellement habitué de le faire, parce que tu tournes tes bras je sais pas combien de fois pendant une semaine, un mois, une année, que là, finalement, quand on te le montre de l'extérieur, tu fais comme « Ah, je fais ça de même!
Ouais.
C'est bien lettre!
Ouais. »
Fait que là, tu essaies de changer comme à l'autre opposé, même si tu n'es pas supposé aller là, mais il faut tout que tu exagères pour changer un détail là, de 1 cm. Fait que ça me faisait tout le temps capoter.
Ouais. Tu voyais des affaires, puis même, tu sais, même à ton niveau, c'est comme, alors ça, faut que je corrige ça. Ouais. Surtout à ton niveau, I guess. Là.
Ouais, mais il y avait des affaires comme, j'étais juste plus capable de changer parce que je l'avais juste trop
c'était
fait.
C'était trop fait. Ouais.
C'était, mettons, dans mon plongeon, au début, j'avais la tête trop rentrée bas, fait que tu sais, trop tucked in vers mon
ça faisait que ton angle était trop rapide. Là.
Ça faisait que ma tête créait de la résistance parce que tu veux que ta tête soit collée entre tes bras pour avoir le moins de résistance possible quand tu rentres dans l'eau. Mais là, ça créait un bout de corps de plus à
briser la surface. Là,
ouais, c'est ça. Ouais. Ça, j'ai jamais été capable de changer.
Ah ouais, hein?
Ouais, c'est tough. Justement, il y a des trucs que t'as tellement fait over and over que ça devient tellement pas naturel que t'es juste comme, OK, continue de faire ce que tu fais, puis t'as quand même des bons dives que, tu sais, on va laisser ça passer.
Il y a du monde qui m'écrivent, des triathlètes, mettons, qui savent que je nage, puis qui me demandent des conseils, parce que souvent, les triathlètes, c'est de loin leur moins bon sport, la natation. Puis qui me demandent, genre, hey, t'aurais-tu des idées de pratique, là, genre, j'ai un demi-Ironman ou whatever, du monde qui commence, mettons. Puis souvent, je leur dis, fais juste t'assurer que t'es correct, que t'es capable de nager, genre. Comme du monde. Demande à quelqu'un de venir te voir parce que, mettons, quelqu'un qui est pogné à, je sais pas, une 40 du 100 mètres, il peut facilement se rendre à une 30 sans être obligé de faire 8000 mètres par entraînement, là.
Tu sais? Non, je suis d'accord.
Quelqu'un qui est à une 40, là, moi, je pourrais prendre quelqu'un à une 40, mettons, il dire, viens trois fois par semaine, une heure, là. Puis en deux mois, tu fais une 30, là. Juste avec deux ou trois pointers, là, puis ça fait une grosse crise. Puis même le step de genre, de une 30 à une 20, c'est quasiment encore ça, là. C'est quasiment encore juste une affaire de technique, parce que ce monde-là, ils ont la machine, tu sais, ils ont le moteur pour être capable de faire ça. C'est juste qu'ils nagent tout croche, tu sais. Mais c'est que souvent, ils se sont jamais filmés. Mais se filmer, c'est comme... Faut que tu prennes la peine de le faire. Là. Le monde, il va dans les lacs, ils nagent longtemps, mais c'est genre, filme-toi, puis regarde-toi avec quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Mais ça fait juste démontrer aussi que il y a tellement de choses qu'une personne peut améliorer pour, tu sais, justement t'améliorer de façon globale. Puis on pense souvent, de façon instinctive, que ça va être en enchaînant plus de millages, en faisant plus de qualité, tu sais, comme pour, mettons, courir plus vite. Mais des fois, ça va être juste de, tu sais, je sais pas moi, faire des abdos parce que ton corps est pas assez développé. Tu sais, si on l'applique à la natation, t'as tellement de choses parce que ça implique tout le corps que tu peux dire comme, ben moi, j'ai un point faible au niveau, je sais pas moi, des jambes. Je vais commencer à travailler plus sur mes jambes pour que mon kick me prend plus vers l'avant. Fait qu'au bout de la ligne, c'est pas juste de t'entraîner plus fort, mais c'est juste d'essayer de mettre l'emphase sur tes points faibles. Mais tu sais, ça, c'est... Je dis ça, puis ça peut paraître tellement comme basic, là, mais tu sais, des fois, on l'oublie.
Ben, exact, c'est ça.
Que, ouais, je peux comprendre que, justement, un triathlonien te demande comment ça... Puis, tu sais, des fois, c'est juste comme, non, mets le focus où est-ce que tu devrais
mettre. Ouais, c'est ça, genre, tu mets trop d'énergie dans aller nager 8 fois par semaine, là, c'est pas ça, là.
Ouais, c'est ça.
Si ton objectif, c'est d'être capable de tenir une 20 pendant 3 kilos, genre... Tu fais pas bonne affaire pour faire ça. Là. Mais moi, ça m'a fait ça avec la course à pied. Là. T'sais, j'ai eu un conseil une fois. T'sais, moi, je me suis jamais fait checker ma foulée par absolument personne. Là. Puis j'ai toujours une biomécanique de marde là, à la course à pied, vraiment. Là. Genre, je cours lourd puis ça marche pas. Là, t'sais. Puis j'ai eu le conseil de comme de quelqu'un qui m'a dit de séparer ma course puis mon jog dans ma tête. T'sais. Fait que de savoir quand je jog. Puis de savoir quand je cours, puis de quand je cours, c'était d'avoir l'impression que mon pied arrivait en dessous de mes hanches, tu sais.
Mais attends, je comprends pas. Quand tu cours, c'est quand tu cours plus rapidement.
Quand je cours plus rapide, ouais, c'est ça. Tu sais, quand je jog, c'est comme juste du easy. Fait que ça, tu sais, ça, t'as un pattern pour ça. Mais quand tu vas courir plus vite, c'est pas le même pattern, tu sais. Fait que là, on m'avait dit, quand tu cours plus vite, assure-toi d'essayer d'avoir, mettons, ton pied qui touche le sol, pense qu'il est en dessous de tes hanches. Il sera jamais en dessous de tes hanches, là, comme quand tu veux corriger n'importe quoi en natation, tu overthink tout le temps, comme tu disais. Mais là, il m'a dit, pense, c'est en dessous de tes hanches. Fait que là, de cette façon-là, j'ai comme drivé mes hanches. Puis une fois que j'ai commencé à le faire de même, là, à un moment donné, j'ai arrêté d'y penser. Puis mes pace sont vraiment descendus, là, comme drastiquement. Là. Puis c'est pas parce que je mettais plus de kilomètres, c'est juste parce qu'à un moment donné, j'avais comme eu un déclic. Puis c'est à vitesse que je cours, qui est, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être rapide, mais pour quelqu'un d'élite, c'est lent en tabarnak. Là. C'est facile d'aller chercher des petits gains comme ça qui font une majeure différence, tu sais, quand t'es pas à pinpoint, à fine point de la vitesse, mettons, là, tu sais. Fait que c'est quand même des secondes faciles à grappiller.
J'étais allée voir une physio parce que justement j'avais mal au genou en février, puis elle m'a fait une évaluation. Je sais pas si t'as fait la même chose, elle te met sur un tapis, puis là elle te filme avec plutôt un quadrillé derrière toi qui voit comme des lignes. Puis là, au début, elle me filme, puis là, elle me montre, puis là, tu vois vraiment que je sautille beaucoup. Puis là, elle dit, OK, change ta fréquence là, de pas. Là, tout le monde le sait, le magic number, je pense que c'est 180. Puis là, j'ai changé, hop, là, tout d'un coup, j'étais, tu sais, comme je sautillais moins.
À 180?
À 180. Puis, tu sais, elle m'a expliqué que c'est parce que là, tu mets moins de poids à chaque fois sur tes jambes, parce que si on extrapole, si tu prends des vraiment longues foulées, à chaque fois, c'est un énorme poids sur tes pieds, donc sur tes genoux, qui peut créer justement des douleurs que moi, j'avais accumulées. Après ça, de commencer à t'entraîner à courir à 180, c'est une autre histoire. Ouais. Là, mais c'est là aussi que j'ai commencé à cliquer que, tu sais, je veux dire, chaque sport a ses spécificités, puis sa technique, puis tu peux aller tellement loin des fois, là, comme dans des disciplines comme ça, que t'as aucune idée, puis c'est comme un trou noir, trou sans fin. Là, mais c'est intéressant en même temps.
Ouais, vraiment, vraiment. Conseil que j'ai appris aussi, puis peut-être que tu l'as déjà eu. Peut-être que tu l'as déjà eu, là, mais j'ai appris ça à la dure. Là. Tu sais, de mettre le moins de pas possible sur chaque pas, là, dans les downhills, dans les descentes, là, en trail, faut que tu fasses ça. Faut que tu fasses des petits pas parce que les gros pas, ça te pète.
Ah, ouais,
moi,
ouais,
maintenant, mettons, pour le UTHC, j'ai plus peur des downhills que des montées.
Même chose.
Genre, le D+, ça va. Là, le D+, tu le power walk, puis moi, j'ai des bâtons, tu sais, ça passe bien. Mais le downhill, il me pète là, complètement. Ouais.
Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je pensais que ça allait être le contraire. Puis finalement, je me rends compte que non, la descente, c'est pas tant au niveau du cardio, mais c'est faut que tu restes attentif. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des choses qui arrivent comme plus rapidement que quand tu montes puis que tu es un peu plus lent. Puis ça sollicite des muscles que moi, j'avais jamais vécu avant. Tu sais, comme autour des genoux, les quads, les chevilles aussi. Fait que, ouais, c'est toute une technique. En fait, c'est beaucoup de techniques différentes. Là,
vraiment.
Trail running.
Puis c'est beaucoup de niveaux d'énergie différents aussi, là, tu sais.
Ouais, c'est ça que j'aime. Je découvre un nouveau monde.
Mais moi aussi je trouve que c'est vraiment... Tu sais, mettons, dans du 50-100, on a fait la même chose en natation. Là, on faisait du 50-100. Là. Dans du 50-100, il n'y a pas beaucoup de paramètres. Là. Ben, il y a beaucoup de paramètres, mais... Tu peux pas jouer beaucoup avec tes paramètres.
Non, c'est ça. T'as pas beaucoup de marge d'erreur.
Non, c'est ça. Exact. T'sais, moi, je me rappelle encore aujourd'hui, je suis capable de te dire le nombre de kickflags que je faisais à chaque mur, le nombre de coups de bras que je faisais à chaque longueur sur un 100 mètres d'eau. Je suis capable de. Tu sais, par cœur, je suis capable de m'imaginer le faire. Je suis capable de me visualiser. Je l'ai tellement vu, je l'ai tellement pensé, je l'ai tellement fait que je suis capable de dire tout ça par cœur. Puis. Il n'y a pas grand-chose qui bouge de ça. Là. Des fois, tu es plus explosif. Il y a peut-être un coup de bras de moins. Max, mettons, là, dans ta course, quand tu arrives dans une autre situation. Mais en trail, chaque fucking jour est rempli de nouvelles affaires complètement différentes que tu n'as jamais vues. Même j'ai un parcours de 30 km, une boucle de 30 km au lac Beauport, proche de chez nous. Ça fait une couple de fois que je la fais. Il n'y a pas une fois que ça a été la même expérience, là. C'est une fois, là, tu sais.
Tu rentres aussi dans un état de méditation, là, quand tu fais du trail running. Je me suis rendu compte beaucoup, tu sais, la semaine passée, j'ai fait justement un 28, où est-ce que c'est environ 10 kilos me rendre à la montagne, 10 kilos la montagne, puis 10 kilos revenir.
Le Mont-Royal, c'est...
Non, c'était à AZ.
OK.
Fait que j'étais à Mansonville, j'ai couru, tu sais, je voulais pas utiliser le char, fait que j'ai couru pour aller à la montagne, j'ai monté la montagne, bing, bang, boum, je reviens. Fait que le premier tiers puis le dernier tiers, c'est juste comme du plat ou presque. Là. Puis le 10 kilos du milieu a tellement passé vite. J'ai même pas regardé ma montre. Ouais. Puis j'ai fini, puis j'étais comme, OK, wow, déjà. Puis le monde, là, est tout. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Là, genre, c'est ça, je suis rentrée dans une espèce de méditation. Puis...
Mais est-ce que tu avais des pensées ou tu avais juste le vide?
Non, j'avais des pensées. C'est rare qu'il se passe rien dans ma tête. Je pense beaucoup, mais Il y a aussi l'aspect de, tu sais, je focus sur ce que je fais. Fait que les pensées vont être très orientées sur le moment présent. La course, tu sais, pourquoi je fais ça, où est-ce que je pose mon pied, comment je peux m'améliorer, etc., etc. Fait que tu oublies justement ces petites affaires-là, tu sais, qui peuvent te stresser dans la vie. Ouais. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. Tu sais, chose qui m'arrive pas quand je veux juste courir autour de mon appart.
Ouais.
Un 10 kilos, je reviens, puis je suis comme, finalement, c'était long, 10 kilos.
Ouais.
Fait que si je compare un 10 kilos autour de chez moi versus un 65 à Arcana, je pense que le 65 à Arcana va passer relativement
plus vite,
rapidement.
Plus ouais. vite que ça. Ouais. Ben, moi, tu vois, c'est vraiment, c'est ça aussi, mais moi, on dirait que c'est vraiment le seul moment. Puis encore une fois, je suis allé courir sur le bord du canal, ça s'est pas passé tantôt. Là. Mais quand je vais vraiment dans une forêt avec des racines, des roches puis des affaires de même, il ouais. y a juste ça. Il y a rien dans ma tête. Il y a juste comme roche, racine. Puis là, genre, je suis de même, puis là, je vais juste penser à ça pendant tout. Puis là, genre,
c'est tellement
tu tombes dans un puis le moment où est-ce que ma tête part. C'est là que je me pète une cheville, c'est là vrai. Que je tombe sur une racine, c'est là que je... Que, le moment où ouais. que je regarde ma montre parce que je veux voir mon pace, c'est là que j'accroche de quoi mm-hmm. ou que je tombe, là, tu sais.
Ouais.
Fait que genre, faut juste, tu restes tout le temps, genre, à checker des affaires, mm-hmm. à pas trop penser, là, tu sais.
Ouais.
C'est de couper les sensations négatives puis de juste y aller.
Ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais. C'est vraiment le seul sport que j'ai trouvé qui fait ça. Un peu le vélo aussi, surtout le vélo en peloton.
Ouais.
Parce que...
T'es concentré à pas frapper le monde.
Ouais, à pas mourir, à la limite. Ouais. Là. Fait que t'es très dans, encore une fois, le moment présent, puis les stimuli extérieurs, ouais. T'sais, comme t'assurer que, bon, tout le monde va bien. T'sais. Fait que ça, c'est un autre sport que j'ai découvert qui me fait vraiment ouais. déconnecter à un autre niveau. Ouais. Ouais.
C'est le fun, ça. C'est le fun de connecter par le sport.
Ouais.
Avant de te laisser partir, je veux que tu parles un peu. T'es allé courir en France?
Oui.
Puis c'était comment? Ça avait l'air insane, là.
Pour vrai, à chaque fois que j'en parle, les émotions me reviennent. J'ai vécu des choses. En plus, j'étais toute seule. Hein? Fait que, puis je pense que j'ai apprécié le fait d'être toute seule parce que j'ai pu vraiment le vivre à mon rythme, à ma façon. Tu sais, je me suis mis ça dans mon horaire. Tu sais, j'avais une amie qui se mariait dans ouais. le sud de la France. Puis je me suis dit, tant qu'elle est en France, je vais aller faire un tour dans les Alpes. Tu sais, pourquoi pas?
Ouais. Préparer pour l'Arcana.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai trouvé un petit village où est-ce que ça avait l'air d'être bien organisé quand même pour les trails. Puis tu sais, tout était bien expliqué, le dénivelé, les distances ouais. et tout. Et tu sais, j'ai été là juste pendant deux jours et demi, là, fait que j'ai fait un, comme on appelle, un weekend shock, ouais. là, comme que tu dois faire dans les semaines avant une grosse compétition comme Arcana. Quand je suis arrivée, j'ai juste fait un petit 10 kilos juste comme pour me mettre dedans. Où est-ce que j'ai vu le coucher du soleil? C'était, je veux dire, impossible de décrire en mots. Ouais. Là, c'était vraiment insane parce que... c'est des montagnes à perte de vue, là, c'est quelque chose que j'avais jamais vu de mes yeux avant, là, ouais. c'est vraiment exceptionnel. Puis après ça, j'ai fait deux loops les deux journées d'après où est-ce que j'ai enchaîné le dénivelé puis le kilométrage. Puis encore une fois, c'était des 5 heures à chaque fois où est-ce que c'était beaucoup de kilométrage, beaucoup de dénivelé, mais qui ont passé en 2 secondes et quart parce que et comme on le disait, tu te rends dans un état de méditation, mais c'est aussi le paysage qui est juste à couper le souffle. L'affaire que j'ai trouvée la plus difficile, c'est de courir là-dedans avec le paysage insane devant moi parce que, comme on dit, tu peux ouais. pas te laisser distraire par justement l'extérieur, ouais. mais là, justement, j'avais ça qui se passait devant mes yeux, puis j'étais comme, ok,
comme t'arrêtes j'en souvent profite, là, pour regarder, ouais, c'est ouais.
ça. Alors que t'es juste tiqué sur ton trail, la terre, tes yeux, tu sais, comme racine roche. Ouais. Mais tu sais, sinon, c'est ça, c'était vraiment cool. Puis, je le conseille à n'importe qui ouais. qui fait du trail running d'aller dans cet environnement-là, c'est vraiment exceptionnel.
Mettons, là, de. Tu sais, par la natation, j'ai voyagé, mettons. Là. Le fond de la piscine est pareil partout, mm-hmm. là, tu sais, puis il va toujours être pareil partout, puis s'il est pas pareil partout, tu te cognes la tête dans le mur, puis tu te fais mal, tu sais. Mais de courir en trail dans des montagnes, mettons, ou dans des, tu sais, moi, je veux commencer à voyager de même, mettons, là. Je veux me dire, ok, là, je vais juste aller comme pogner un spot, puis que ce spot-là, ce soit un spot que je peux aller courir, mm-hmm. parce que c'est tellement, mettons que tu fais 30 kilos, là, t'as le temps d'en voir des affaires, là.
Ouais.
T'as le temps d'en voir des paysages, des petits villages, des affaires de même, tu sais, dans des places hautes en crise, là.
Ouais.
Ouais, puis ça fait un bon changement de la ligne au fond de la piscine.
Ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est justement, moi, le premier voyage que je faisais qui était très orienté autour de la course. T'sais, avant, quand je faisais des voyages, les gens disent comme je suis en vacances et je m'entraînerai pas, justement, je suis en vacances. Mais moi, j'utilisais la course pour visiter. Fait que la première journée, quand je suis arrivée à Marseille, j'ai visité Marseille à la course, à pied, comme je pouvais arrêter quand je voulais pour comme visiter, prendre des photos, whatever. J'aurais pas été capable de faire ça si j'avais juste marché ou en tout cas j'en aurais fait moins. Même chose dans les Alpes, si j'avais fait comme juste la randonnée, à la limite j'aurais fait la moitié de ce que j'ai fait, exact. J'aurais moins vu. Fait que je trouve que ça amène vraiment une perspective de voyage que j'avais jamais vécu avant.
Mm-hmm.
Puis je me dis que je vais essayer de faire ça le plus possible maintenant dans mes prochains voyages. Puis je pense aussi que je vais choisir mes destinations en fonction de ça parce exact. Que ça change vraiment la dynamique. Là. C'est tu fais du sport en même temps puis tu visites, c'est comme tout ensemble. T'sais, moi, je suis pas vraiment du genre d'aller juste me bencher sur une plage. J'ai l'impression que j'avance pas. Là. T'sais, fait que ouais, c'était vraiment un beau mix de je voyage, je me repose psychologiquement, puis je m'entraîne, tu sais, puis je suis revenue après ça à la maison, j'étais brûlée au niveau physique, mais j'étais
complètement détendue.
Ouais, vraiment,
très cool. Merci beaucoup
merci
de ton temps, c'était super cool.
Ouais.
Yes.
Merci.